Millefeuille revisité. Bonjour, vous êtes bien sur l'autre radio, en compagnie de Christine. Je vous propose pour ce deuxième épisode du Millefeuille revisité de traverser l'Atlantique et de découvrir ou redécouvrir un auteur du sud des États-Unis, Carson McCullers, à travers son roman Frankie Adams.
I suddenly realized Frankie is in love with her bride and the brother. And I said, that's it. And so I said, look, listen, Gypsy, Frankie is in love with her bride and her brother. What you gonna read now,
You just cue me into something.
Oh, you forgot. Why don't you read the first chapter of the Member of the Wedding? I worked over 5 years. Oh, yeah.
All right.
Well, you announce it because I left that out now.
Well, this is the first chapter of the Member of the Wedding.
Yeah.
It happened that green and crazy summer when Frankie was 12 years old.
Ce que nous venons d'entendre, c'est une interview de Carson McCullers et de Tennessee Williams qui date de 1954 et que vous pouvez retrouver intégralement sur YouTube. Carson vient d'y évoquer ce qu'elle appelle ses illuminations, cette sorte de fulgurance où la clé d'un récit s'impose à elle de manière assez magique après des mois et des mois de tâtonnements. En l'occurrence, pour ce roman, Frankie Adams, où l'héroïne est tombée amoureuse du couple que forment son frère et sa fiancée. Carson McCullers invite ensuite Tennessee Williams à lire le premier chapitre du roman, qui lui a demandé 5 ans de travail. Cet extrait est aussi révélateur de la personnalité de Carson McCullers. Son amie Mary Spencer disait d'elle: je voudrais qu'on retienne son humour, son sens du jeu, de la farce. Au plus fort de la détresse, elle gardait le goût des facéties. Elle gardait le bouclier de son rire. Alors sans plus attendre, comme mise en bouche, je vous propose de retrouver le début de Frankie Adams, ou selon son titre original, The Member of the Wedding. C'est arrivé au cours de cet été vert et fou. Frankie avait 12 ans. Elle ne faisait partie d'aucun club, ni de quoi que ce soit au monde. Elle était devenue un être sans attache qui traînait autour des portes, et elle avait peur. En juin, les arbres avaient été d'un vert étourdissant, mais les feuillages s'étaient mis à foncer peu à peu, et la ville était devenue noire et comme desséchée par le feu du soleil. Dans les premiers temps, Frankie avait l'habitude de se promener, sans avoir rien à faire de précis. Au petit matin et au crépuscule, les trottoirs de la ville étaient gris, mais le soleil de midi les transformait en miroirs, et le ciment brûlait en scintillant comme du verre. Frankie avait fini par trouver que le trottoir était trop chaud pour la plante de ses pieds, et d'un autre côté, elle commençait à avoir des ennuis. Des ennuis si graves et si personnels qu'elle avait jugé préférable de rester calfeutrée chez elle. Et chez elle, il n'y avait que Berenice Sadie Brown et John Henry West. Ils restaient assis tous les trois autour de la table de la cuisine, parlant de choses, toujours les mêmes, les répétant à l'infini. Si bien que pendant ce mois d'août, les mots s'étaient mis à rimer les uns avec les autres, en produisant une étrange musique. Chaque après-midi, le monde avait l'air de mourir, et tout devenait immobile. Cet été-là avait fini par ressembler à un cauchemar de fièvre verte, ou à une jungle obscure et silencieuse derrière une vitre. Et puis, le dernier vendredi du mois d'août, tout avait changé brusquement. Si brusquement que dans le désert de cet après-midi, Frankie ne savait plus où elle en était et qu'elle n'arrivait toujours pas à comprendre. « C'est vraiment trop bizarre, » dit-elle, « la façon dont c'est arrivé. » « Arrivé ? Arrivé ?» dit Bérénice. John Henry les observait et les écoutait calmement. « Je ne sais plus où j'en suis. À ce point-là, c'est la première fois. »« Où tu en es ? À cause de quoi ? De tout ça ?»« Le soleil, » dit Bérénice, « je crois qu'il t'a fait bouillir la cervelle. »« Moi aussi, » murmura John Henry. Frankie elle-même n'était pas loin de le croire. Il était 4 heures de l'après-midi. La cuisine était calme, grise et carrée. Frankie était assise près de la table, les yeux à moitié fermés, et elle songeait à un mariage. Elle voyait une église silencieuse et de la neige qui s'écrasait bizarrement contre les vitraux de couleur. Le marié était son frère, et il y avait une lumière à la place de son visage. La mariée était là, elle aussi, en robe blanche à longues traînes, et la mariée n'avait pas de visage, elle non plus. Quelque chose dans ce mariage faisait éprouver à Frankie une sensation dont elle ne savait pas le nom. Sa situation sur l'étagère, eh bien, mon exemplaire de Frankie Adams se trouve très exactement entre Harry De Luca et Thomas Mann. Une chose est sûre, si Carson avait eu à choisir, elle aurait souhaité sans hésitation être à côté de l'œuvre de Tennessee Williams, écrivain du sud des États-Unis comme elle, et surtout ami de toujours. Et bien sûr, à côté des auteurs qui l'ont inspiré, les grands écrivains russes, Flaubert, Joyce, Faulkner, Walt Whitman ou D.H. Lawrence. Mais pourquoi pas aussi à côté d'un album du photographe Henri Cartier-Bresson qui sut saisir dans les années 40 les photos que l'on connaît d'elle et qui lui témoignait une grande tendresse. Mais revenons à son auteur, Carson McCullers. C'est en 1917 que naît Lula Carson Smith à Columbus, ville du sud des États-Unis, en Géorgie. À l'image de ses deux héroïnes, Mick, dans son premier roman « Le cœur est un chasseur solitaire » et Frankie, dans « Frankie Adams », c'est une adolescente trop vite montée en graines, à l'image, disait-on à l'époque, d'un garçon manqué. C'est elle qui décidera qu'on l'appellerait Carson, de son deuxième prénom qui lui vient de sa grand-mère. Pianiste virtuose, sa mère a nourri pour elle des ambitions de musicienne internationale. Mais c'est vers la littérature et l'écriture que le choix de Carson se portera. À 18 ans, elle suit des cours d'écriture à Columbia, et c'est à cet âge également qu'elle fait la connaissance du caporal Reeves McCullers, son premier amour et futur mari. Entre ces deux-là, se tisse dès leur rencontre un lien profond, mais aussi une relation houleuse, voire destructrice, qui durera près de 20 ans. Carson McCullers connaît le succès dès son premier roman, « Le cœur est un chasseur solitaire », paru en 1940, alors qu'elle n'a que 23 ans. C'est une révélation littéraire. Richard White, auteur de « Black Boy », la compare à Faulkner, comme écrivain blanc du Sud. Elle a, dit-il, le sens de l'humain avec la même compréhension et la même tendresse pour tous ses personnages, quelle que soit leur couleur de peau. À travers son œuvre, elle évoquera très souvent la solitude, l'adolescence, la marginalité, la pauvreté, les préjugés, le racisme et l'homosexualité. Outre par ses romans, elle scandalise aussi à l'époque dans certains milieux par sa manière de s'habiller, son comportement. On l'a vu adresser la parole à des Noirs, échanger avec eux. Et en 1961, Elle refusera d'ailleurs de déposer ses manuscrits à la bibliothèque de Columbus, sa ville natale, bibliothèque qui était encore réservée aux seuls blancs. J'en viens à douter que la bibliothèque publique de Columbus soit réellement publique, écrira-t-elle pour motiver son refus. Son roman « Reflet dans un œil d'or », écrit en 1941, sera également l'objet d'un scandale à sa sortie. Ce huis clos qui se déroule dans une caserne en temps de paix met en scène les passions humaines, notamment la relation amoureuse entre le capitaine Pemberton et le soldat Williams. À noter, la très belle adaptation cinématographique de John Huston avec Elizabeth Taylor et Marlon Brando, qui est sortie en 1967 et qui provoquera elle aussi un nouveau scandale. Une sortie sur les écrans, 12 jours après la disparition prématurée de Carson McCullers. On a souvent qualifié cet auteur d'auteur mineur au vu de son œuvre qui se résume à 8 livres sans compter un recueil posthume. Mais comme disait Tennessee Williams, ce n'est pas à la quantité, après tout, que se juge un artiste. C'est à la qualité d'un esprit, à ces occasions où il ou elle a été visité par la grâce de l'ange.
New York is my destination. New York is where I will be from. New York is made for grander things, just like me. I will lunch at the Algonquin. Swing by the Plaza Walton, the Three Arts Club. I'll live there indefinitely. New York is made for grander things, just like me. Literati, yes, they will love me. Paparazzi, well, could this be glitter? Seduction, glittering on the horizon, mountains of fame and fortune and snow, finally. 'Cause New York is made for grander things, just like me. Glitterati, yes, they will love me. Paparazzi, could this be? Glitterati, they know of me. New York's waiting for me. Practice at the Parnassus, cram for Columbia classes. Ride those Fifth Avenue buses. Weave some tale about us. I lost all my money for Juilliard. I hid in the phone booth at Macy's. I slept in a brothel on the way to my destiny. New York is made for grander things, just like me. Literati, yes, they will love me. Paparazzi, just like me.
Nous venons d'écouter New York is my destination de Suzanne Vega, un titre extrait de son album Lover Beloved de 2011, album où elle a consacré 10 chansons à la vie et à l'œuvre de Carson McCullers. Tout comme son premier roman Le cœur est un chasseur solitaire, Frankie Adams est un grand roman de l'adolescence, où l'auteur nous plonge dans les tiraillements de ce passage complexe entre l'enfance et l'âge adulte. Elle y décrit également l'ennui et la grande solitude du sud, la chaleur accablante qui y règne et la souffrance qui en découle. Frankie Adams, c'est aussi le désir fou de cette jeune fille, l'héroïne, Frankie, de faire partie du couple que forment son frère et la fiancée de son frère, une sorte de quête absolue que l'on retrouve dans la vie de l'auteur, ce souhait de faire partie d'un tout, d'un nous, de sortir de la solitude et d'être le membre à part entière d'un groupe. Elle y est sans doute parvenue, car à 50 ans, très affaiblie par la maladie, elle dira dans une interview au New York Times « Je ne sais pas ce que je ferais sans mes amis. Ils sont mon nous à moi. » C'est encore Tennessee Williams qui a suggéré à Carson de travailler à une adaptation de Frankie Adams pour le théâtre. Et bien lui en a pris, car la pièce fut un succès dès la première représentation à Broadway en janvier 1950 et elle sera jouée 501 fois. Carson recevra d'ailleurs plusieurs prix pour cette adaptation. Comment j'ai découvert ce livre ? Eh bien, comme le disait en juillet dernier Charles Pépin lors d'une de ses émissions sur France Inter, sous le soleil de Platon, à propos de David Bowie, une rencontre, ça ne s'arrête jamais. J'ai maintenant 50 ans et je continue chaque jour à rencontrer David Bowie un peu plus. Charles Pépin parlait de rencontres continuées. Je pourrais en dire autant, de Carson McCullers. C'est une romancière que je continue de rencontrer. Je l'ai découverte initialement avec son premier roman, Le cœur est un chasseur solitaire, et j'ai continué à cheminer et relire son œuvre au fil des années. C'est seulement en 2006 que j'ai lu Frankie Adams, un peu comme on retourne à une madeleine, ou comme on revient voir une amie de longue date avec la certitude de n'être pas déçue par ses retrouvailles. C'est bien d'ailleurs ce que l'on recherche avec un auteur qu'on affectionne, retrouver ce lien qu'on a tissé avec lui au fil des premières lectures. Rencontre continuée donc, et récemment encore avec la très belle biographie que Josiane Savigno a consacrée à Carson McCullers, Un cœur de jeune fille, que je vous conseille vivement de lire si vous souhaitez en savoir plus sur cette grande romancière. Et pour continuer, découvrons un deuxième extrait de Frankie Adams qui illustre la complicité des trois personnages principaux du roman, Frankie, John Henry, son jeune cousin, et Berenice Sadie Brown, sa gouvernante et confidente. C'était le moment de l'après-midi où ils s'asseyaient autour de la table pour jouer avec les cartes rouges. Et ils commençaient parfois à critiquer le Créateur. Ils portaient un jugement sur le travail de Dieu et ils énuméraient les différents moyens d'améliorer l'univers. Et la voix de John Henry, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'élevait, joyeuse, étrange, suraiguë. Et l'univers qu'il inventait était un mélange de délices et de monstres. Et il était incapable de penser en termes généraux. Il y avait un bras immense qui pouvait brusquement atteindre la Californie, des bouts de chocolat, des pluies de limonade, un œil supplémentaire qui pouvait voir à plus de 1000 miles, une queue pivotante qu'on pouvait abattre comme une sorte de béquille et sur laquelle on s'asseyait quand on avait envie de se reposer, et des fleurs en sucre. L'univers de Berenice Sadie Brown, Seigneur Tout-Puissant, était très différent. C'était un univers rond et juste et raisonnable. Un univers où, pour commencer, les gens de couleur ne seraient plus séparés des autres. Car tous les êtres humains auraient la peau légèrement brune, des yeux bleus et des cheveux noirs. Il n'y aurait plus de gens de couleur et plus de blancs devant lesquels les gens de couleur se sentiraient honteux et inférieurs tout le long de leur vie. Plus de gens de couleur, mais des hommes, des femmes et des enfants composant une seule famille vivant sur la terre. Et quand Bérénice développait ce premier principe, sa voix était comme un chant violent qui montait du plus profond d'elle-même, et les notes qu'elle chantait étaient graves et belles, et l'écho qu'elles éveillaient dans les angles de la cuisine vibrait un long moment avant que le silence ne retombe. « Pas de guerre, » disait Bérénice. « Pas de cadavres raidis pendus aux arbres d'Europe. Aucun juif assassiné nulle part. Pas de jeunes gens en uniforme arrachés à leur maison. Pas d'Allemands sauvages et pas de Japonais cruels. Pas de guerre dans le monde entier, mais la paix partout, dans tous les pays. Pas de famine non plus. Au commencement de tout, le Seigneur Dieu a créé l'air libre et la pluie libre et la boue libre pour que tout le monde en profite. Et libre serait la nourriture pour toutes les bouches humaines, libre les repas. Et les 2 livres de graisse par semaine, et chaque personne en état physique de travailler pourrait le faire pour obtenir ce qu'elle avait envie de manger en plus. Pas de juifs assassinés, pas de gens de couleur honteux, pas de guerre et pas de faim dans le monde. Et pour couronner le tout, Ludie Freeman serait encore vivant. L'univers de Bérénice était un univers parfaitement rond, et l'ancienne Frankie écoutait sa voix sombre et chantante et elle lui donnait raison. Mais l'univers de l'ancienne Frankie était cependant le meilleur des 3. Elle était d'accord avec Bérénice sur les lois essentielles de sa création, mais elle y ajoutait un certain nombre de choses. Un avion et une motocyclette par personne, un club mondial avec carte et insigne et une amélioration de la loi de la pesanteur. En ce qui concernait la guerre, elle n'était pas complètement d'accord avec Bérénice. Elle prétendait de temps en temps qu'il devrait y avoir, dans l'univers, une île de la guerre, où tous ceux qui le désiraient pourraient se rendre, soit pour combattre, soit pour donner leur sang, et elle y séjournerait un moment elle-même, comme WLC des forces de l'air. Elle souhaitait également changer les saisons, supprimer complètement l'été et ajouter beaucoup de neige. Elle prévoyait enfin que les gens pourraient instantanément devenir homme ou femme selon leur humeur et selon leur désir. Bérénice discutait ce point-là avec force, insistait sur le fait que la loi qui régissait le sexe humain était exactement ce qu'elle devait être et qu'il était inutile de chercher à l'améliorer. John Henry essayait alors d'intervenir dans le débat en donnant un avis qui n'avait aucune valeur, car il affirmait que tout le monde devait être moitié garçon, moitié fille. Et quand l'ancienne Frankie le menaçait de le traîner jusqu'à la foire et de le vendre à l'antre des phénomènes, il se contentait de fermer les yeux et de sourire. Et ainsi, ils étaient assis tous les 3 autour de la table de la cuisine, et ils critiquaient le Créateur et le travail de Dieu. Parfois, leurs voix se heurtaient l'une l'autre et leurs 3 univers se mélangeaient. John Henry, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bérénice Sadie Brown, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Frankie Adams, Seigneur Dieu Tout-Puissant. 3 univers à la fin de ces longs après-midi immobiles.
Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude.
Mon amour, ça fait 8 ans. c'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant, un resto, un week-end, c'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine, quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue c'est l'ennui, est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
De lassitude.
Le célibat me fait souffrir de solitude.
De solitude.
La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas.
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Résonance.
Une natte.
Ah. Quand vous aurez fini, vous m'en ferez une aussi. Hein, Léon?
Mais c'est pas comme ça. Tu me dis que tu sais, puis tu sais pas. Je suis sûre que c'est pas comme ça. C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Cet extrait que l'on vient d'entendre, c'est tiré de L'Effronté, de Claude Miller, un film sorti en 1985. Pour ma part, je l'ai donc vu avant de lire le roman de Carson McCullers. Et ce film m'avait beaucoup touché, notamment avec l'interprétation très juste de Charlotte Gainsbourg. C'est donc plus tard pour moi, à l'envers en quelque sorte, qu'il a fait écho avec Frankie Adams. À sa sortie, les héritiers de Carson McCullers ont parlé de plagiat et ont intenté un procès à Claude Miller. Bien sûr, la révolte, les tourments et les aspirations de Charlotte dans L'Effronté à vivre une autre vie que la sienne résonne avec les sentiments de Frankie. Il n'en demeure pas moins que la trame, le contexte familial, historique et sociopolitique diffèrent vraiment de celui du roman. Alors, on peut dire que c'est une libre adaptation, réussie, que je vous conseille de voir ou de revoir, mais je vous invite avant toute chose à lire le roman de Frankie Adams avant. Une citation de l'auteur. L'imagination et la réalité permettent seules de savoir ce qui convient à un roman. Pour moi, la réalité en elle-même n'a jamais eu grande importance. Un de mes professeurs prétendait qu'on ne devrait parler que de son propre jardin. Il entendait par là, je pense, qu'on ne devrait parler que de ce qu'on connaît intimement. Quoi de plus intime que sa propre imagination? Savez-vous ce qu'est une forêt primaire? Une forêt primaire, eh bien, c'est une forêt qui n'a jamais été défrichée, ni exploitée, ni modifiée par l'homme. Il ne reste aujourd'hui qu'une seule forêt primaire en Europe, c'est la forêt de Białowieża, entre la Pologne et la Biélorussie, malheureusement menacée elle aussi par la déforestation mise en œuvre par le gouvernement polonais. Si cette forêt disparaît, l'Europe sera le seul continent à ne plus avoir de forêt primaire. Mais pourquoi, me direz-vous, avons-nous besoin de forêts primaires? Eh bien, parce que leurs bienfaits par rapport aux enjeux que nous traversons sont très précieux. C'est la captation du CO2, la régulation du climat, la préservation des ressources en eau, la résistance au feu et bien sûr la réserve de biodiversité qu'elles abritent. D'où le projet fou mais merveilleux initié par Francis Allais, biologiste reconnu mondialement pour ses travaux sur les forêts primaires, de faire renaître une forêt primaire en Europe. Plusieurs lieux sont envisagés en France entre les Vosges et les Ardennes pour mener ce projet sur une superficie d'environ 70 000 hectares à la frontière entre la France et un autre pays, à cheval donc sur deux pays pour être moins exposés au contexte politique. Car nous sommes dans le temps long, très long. En partant d'une forêt dite secondaire vieille de 300 ans, il nous faudra attendre encore 7 siècles pour parvenir à une forêt primaire. Ce qui veut dire que ni vous ni moi, ni nos proches descendants ne verront l'aboutissement de ce projet. Mais c'est ce qui rend cette perspective tellement enthousiasmante. Alors si vous souhaitez en savoir davantage sur ce projet, allez directement sur le site de soutien à cette initiative www.forêtprimaire-francishall.org. Merci pour votre écoute et rendez-vous pour le prochain Millefeuille revisité sur l'autre radio.